Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Demain, à 7h06, nous aurons peut-être le nom du prochain président des États-Unis, Donald Trump ou Joe Biden. La bataille se poursuit jusqu'au bout, avec cette nuit encore des réunions publiques qui se sont enchaînées. Comment va se dérouler cette présidentielle ? Élément de réponse dès le début de ce journal.
Et puis nous reviendrons ensuite sur les derniers éléments de l'enquête à Vienne. Hier, des assaillants ont tiré sur des passants dans le centre historique. Au moins 3 personnes ont été tuées. Le gouvernement autrichien accuse le groupe État islamique, vous l'entendrez.
Dans ce contexte d'attaques terroristes qui se multiplient en ce moment en Europe et notamment en France, nous nous intéresserons à l'équipe Valeurs de la République, sorte de médiatrice pour les professeurs dans les établissements scolaires. Elle avait été sollicitée quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty.
Et puis nous nous pencherons sur les suites économiques du confinement du pays, Clara.
Un tribunal étudie aujourd'hui, Guillaume, la réouverture possible de petits commerces à Colmar malgré l'épidémie, quand les routiers demandent, eux, plus de souplesse pour leurs restaurants. Le compte à rebours est lancé aux États-Unis. La majeure partie du pays vote ce mardi pour élire son 46e président. Majeure partie car près de 100 millions d'Américains se sont déjà prononcés par anticipation pour éviter notamment les bureaux de vote bondés en pleine pandémie de Covid-19. Ajoutons à cela des craintes de violence sur fond de tensions raciales, une économie ébranlée. Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Washington pour suivre cette élection, cette campagne. Elle se termine là encore sur les chapeaux de roue avec des réunions publiques à foison, Jean-Marc.
Oui, c'est frénétique, hein. Ça s'appelle vraiment faire campagne jusqu'à la dernière seconde. Il y a encore 45 minutes, Donald Trump était toujours sur l'estrade à Grand Rapids dans le Michigan. Après avoir tenu 5 meetings et parcouru 4 états différents dans la journée, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin et donc le Michigan. Au total, tenez-vous bien, le président sortant a tenu 14 meetings en 3 jours. En face, Joe Biden s'est contenté, entre guillemets, hier de 2 meetings dans l'Ohio et le dernier en Pennsylvanie, il y a 3 heures, où il a reçu l'appui sur scène de la chanteuse Lady Gaga. La campagne finale, on le voit, s'est donc concentrée, évidemment, dans ce qu'on appelle les états clés, les swing states, là où peut basculer le scrutin, la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan. La conséquence de cette campagne frénétique, c'est aussi que le taux de participation s'annonce très élevé. Il pourrait approcher les 70%, ce qui serait un record historique pour les États-Unis depuis 100 ans. Vous le disiez, le vote par anticipation a explosé les compteurs. 98 millions d'Américains ont déjà voté. Trump, lui, mise sur une remobilisation de son électorat aujourd'hui pour le jour J. Et comme le veut la tradition, les bureaux de vote ont déjà ouvert à minuit, donc il y a 2 heures ici dans le New Hampshire.
Et après cette élection, Jean-Marc, quand pourra-t-on avoir les résultats ?
Ah ça, c'est la question dont tout le monde aimerait avoir la réponse. D'habitude, vous le disiez, on connaît le résultat entre 5h et 9h du matin heure française. Donc demain matin à la même heure, ça devrait normalement se dessiner. On devrait avoir eu notamment les résultats d'états clés comme la Floride. Mais ça peut aussi durer un peu plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps, en particulier si les résultats sont serrés, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le dépouillement du vote par anticipation, en particulier du vote postal, peut être lent dans certains états. Et c'est d'ailleurs une source de contentieux. Le camp Trump en particulier menace de multiplier les recours contre ce vote par correspondance. Et puis ce qu'on redoute également ici, ce sont des incidents qui perturberaient le dépouillement, en particulier de la part des milices suprémacistes blanches pro-Trump. Tout ça explique que dans de nombreuses villes, comme ici à Washington, tous les commerces ont barricadé leurs vitrines avec des protections en contreplaqué par peur des incidents. Il y a une date quand même à avoir à l'esprit, c'est le 6 décembre. Ce jour-là, la Cour suprême devra statuer définitivement sur l'issue du scrutin.
Merci beaucoup Jean-Marc Four en direct ce matin de Washington. Nous suivrons donc avec vous et avec toute notre équipe de reporters ces dernières heures de campagne. Rendez-vous demain matin, on l'a compris, ou dans les jours qui viennent pour les premiers résultats. Sachez qu'après cette édition, Frédéric Seitz se demandera quel rôle joue l'âge dans une campagne électorale. Et oui, Donald Trump et Joe Biden sont tous les deux septuagénaires. Nous évoquions les tensions possibles après la présidentielle aux États-Unis. C'est une réalité en Côte d'Ivoire en ce moment et elles sont violentes. Au moins une dizaine de personnes sont mortes ces derniers jours après une élection boycottée par l'opposition. Cette nuit, la commission électorale a évoqué plus de 94% des voix en faveur du président sortant Alassane Ouattara, réélu donc une troisième fois. Le nombre de mandats présidentiels consécutifs était jusqu'ici limité à 2, mais Alassane Ouattara estime que la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, adoptée il y a 4 ans, l'autoriserait à se porter candidat, ce que contestent donc les manifestants, d'où la violence ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Nous en venons maintenant à cette attaque terroriste qui a visé Vienne et ses habitants hier soir. Le dernier bilan est de 3 morts dans le centre historique de la capitale autrichienne. 3 personnes tuées par balles, 10 d'autres sont blessées. Attaque terroriste, disent ce matin les autorités autrichiennes. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs tenu une conférence de presse tout à l'heure, précisant qu'un assaillant avait bien été abattu. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour.
Le ministre a dit qu'il s'agit d'un terroriste islamiste.
Le ministre autrichien de l'Intérieur a confirmé que l'assaillant tué hier soir par la police était proche de l'État islamique. Selon Karl Nehammer, les indices recueillis montrent clairement qu'il s'agit d'une personne radicalisée.
Der Attentäter war ein Sympathisant der Terrormiliz.
L'assaillant était un sympathisant du groupe terroriste État islamique. Actuellement, des recherches ont lieu et nous prenons des mesures que je ne peux pas détailler pour des raisons tactiques. L'auteur de l'attaque était porteur d'une ceinture explosive factice et lourdement armé d'un fusil d'assaut. Nous avons mis en place pour l'instant une surveillance renforcée de l'espace public et en particulier des infrastructures sensibles.
Au moins un autre suspect est en fuite, mais la police n'est pas en mesure actuellement de dire combien d'assaillants ont participé aux fusillades d'hier dans le centre-ville de Vienne. Les contrôles aux frontières ont été renforcés et les autorités demandent à la population de limiter ses déplacements autant que possible. Ces attaques ont eu lieu à quelques heures d'un reconfinement général de l'Autriche face à l'épidémie de coronavirus, d'où la présence hier de consommateurs dans des bars et des restaurants. Dans les salles de sport qui étaient encore fréquentées à cette heure-là, les lumières ont aussitôt été éteintes pour limiter les risques. Ce matin, la police ne s'exprime pas sur un éventuel caractère antisémite des fusillades, même si l'une d'entre elles a eu lieu à proximité d'une grande synagogue du centre-ville, située également près de l'opéra. L'Autriche n'est pas un pays particulièrement visé par le terrorisme ces dernières années. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz fait néanmoins partie des dirigeants européens particulièrement fermes face à l'islam radical.
Merci Bertrand Galichet. D'ailleurs, des dirigeants européens ont évidemment réagi depuis hier soir. Notons la réaction d'Emmanuel Macron qui écrit « Nous, Français, nous partageons le choc et la peine du peuple autrichien ». Certains députés français font d'ailleurs un parallèle avec les attaques de janvier 2015 à des terrasses de café à Paris en novembre 2015. À l'instant, par ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel estime que la lutte contre le terrorisme islamiste est notre combat commun. Le terrorisme qui a touché la France ces derniers jours aussi. Nice, la semaine dernière, où 3 personnes ont été tuées dans la basilique Notre-Dame. Et puis Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, il y a 18 jours, avec l'assassinat de Samuel Paty. Hier, un hommage était rendu à cet enseignant à l'occasion de la rentrée scolaire. Une minute de silence, a priori respectée partout en France. Samuel Paty, je vous le rappelle, a été tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. Quelques jours avant sa mort, la principale du collège avait sollicité l'équipe Valeurs de la République de l'Académie de Versailles. À quoi correspond ce dispositif, Arnaud Rozac ?
Ces équipes Valeurs de la République fonctionnent un peu comme un médiateur. Depuis janvier 2018, toutes les académies en possèdent une. Ces équipes sont composées d'une 10 d'inspecteurs académiques qui travaillent de concert avec le recteur et elles sont sollicitées lorsqu'un établissement scolaire signale un problème sur la question de la laïcité. Exemple, un parent refuse que son enfant assiste à un cours sur le genre humain car il serait contraire à sa religion. Le professeur en parle à son proviseur qui peut alors saisir l'équipe Valeurs de la République de son rectorat. Cette cellule agit la plupart du temps dans les 24 heures qui suivent le signalement. Parfois, elle conseille simplement par téléphone l'équipe pédagogique en rappelant certains textes officiels sur le sujet. Mais quand la situation est tendue, elle peut intervenir directement sur le terrain pour aller à la rencontre des professeurs, des élèves et des parents. Ces faits sont transmis à une cellule nationale qui peut dresser un bilan et apporter une aide supplémentaire sur des affaires compliquées. Problème, selon un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, les réponses de l'équipe nationale mettent parfois plusieurs semaines à arriver auprès des équipes académiques. Lors de la dernière année scolaire, de septembre 2019 à mars 2020, confinement oblige, 935 atteintes à la laïcité ont été recensées en France et dans 2/3 des cas, une équipe Valeurs de la République est intervenue.
C'était Arnaud Rozac. Quelques mots maintenant du procès de Sid Ahmed Glam devant la Cour d'assises spéciale de Paris. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise hier soir à l'encontre de cet étudiant algérien accusé d'avoir projeté un attentat contre une église de Villejuif et d'avoir assassiné une jeune femme. C'était en avril 2015. L'avocate générale a demandé que cette peine soit assortie d'une période de sûreté de 22 ans de réclusion et une interdiction de séjour définitive sur le territoire français. Verdict attendu après-demain.
Le maire de Colmar, Eric Stroman, ne se fait aucune illusion sur ce que décidera
le Nous entendions Stéphane Robert à l'instant, Stéphane, qui nous parle du tribunal administratif de Strasbourg qui pourrait cet après-midi acter la fermeture des petits commerces à Colmar, puisque, comme dans d'autres communes ces derniers jours, le maire de Colmar avait pris un arrêté municipal pour rouvrir les petits commerces, des commerces de produits non essentiels, contre l'avis du gouvernement et contre le confinement. Une demande d'annulation a donc été déposée devant le tribunal administratif de Strasbourg qui doit statuer cet après-midi. Et l'élu, le maire de Colmar, a peu d'espoir. Nous retrouvons donc Stéphane Robert à ce propos.
Le maire de Colmar, Eric Stroman, ne se fait aucune illusion sur ce que décidera le tribunal de Strasbourg cet après-midi.
Oui, le résultat de jeu à 90%, évidemment, ça va entraîner l'annulation de l'arrêté.
Cet arrêté qui prévoit d'autoriser les commerces non alimentaires à rouvrir leurs portes dès demain mercredi, il a décidé de prendre samedi dernier. Pas avec l'espoir qu'il puisse entrer en vigueur, mais afin d'alerter sur la situation économique des petits commerces à l'approche des fêtes de Noël.
J'ai beaucoup hésité, mais j'ai bien vu que lorsque des maires ont commencé à prendre des arrêtés, que le gouvernement réagissait. Avant de simples courriers, on avait à peine une réponse. Dès qu'on a pris des arrêtés, bien le gouvernement a réagi.
La difficulté, explique-t-il, c'est que Colmar a déjà dû accepter de renoncer au marché de Noël, qui, avec les chalets disséminés dans toute la ville, attire chaque année 1 200 000 visiteurs.
Les marchés de Noël, c'est un enjeu économique important. Bien entendu que je comprends que ces marchés de Noël ne pouvaient pas être maintenus. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de contestation à cet égard. Simplement, on espérait que le commerce de centre-ville pourrait vivre normalement pendant cette période de Noël.
La ville de Colmar s'accroche désormais à l'espoir ténu que de nouvelles discussions fassent changer d'avis le chef du gouvernement. Jean Castex a promis de réexaminer la situation en fonction de l'évolution de l'épidémie d'ici 2 semaines.
Et d'ici là donc, les petits commerces dits non essentiels resteront fermés. Idem pour les rayons des grandes surfaces qui vendent des biens qui ne sont pas de première nécessité. Le décret qui doit distinguer ces produits sera publié ce matin. Autre inquiétude sur laquelle nous nous arrêtons à présent, celle des transporteurs routiers. Ces travailleurs essentiels transportent notamment des biens alimentaires en ce moment. Dans un communiqué commun, plusieurs syndicats, notamment la CFDT, FO ou la CGT, s'inquiètent des conditions de travail des 500 000 travailleurs de la route. Les restaurants relais routiers ont dû fermer vendredi dernier et ils demandent donc une souplesse sans quoi ils s'organiseront. C'est ce que dit Blaise Patrick au micro de Marie Viennot. Il est secrétaire général de la CFDT Route.
Ce ne sera pas des menaces de grève. Vous savez, ce qu'on nous a demandé, c'est que, avec pas mal de responsables de relais routiers et de conducteurs, que si à un moment donné ça ne va pas, qu'on coordonne une action, qu'on coordonne un mouvement de mécontentement, un arrêt de rouler d'une heure ou deux, ce sera notre rôle. Si on voit que l'État refuse de dialoguer avec nous, même si on a eu une réunion vendredi dernier le matin sur ce sujet-là, depuis, on n'a pas eu de son ni d'image de leur part. On ne veut pas faire la grève parce qu'on sait qu'ils sont essentiels. Écoutez, il faudrait qu'au moins le soir, les relais routiers soient ouverts. Au moins le soir, si ce n'est pas le midi, que le midi ait des plateaux, encore on pourrait peut-être le concevoir, mais que le soir au moins ils soient ouverts afin qu'ils puissent prendre vraiment leur dîner à table, assis tranquillement, un dîner chaud, avec les sécurités sanitaires qu'il faut, avec les distances qu'il le faut, comme ça a été mis en place dans les relais, et qu'ils puissent aller prendre leur douche pour passer une nuit correcte, pour le lendemain matin repartir et pouvoir prendre un café avant de partir et prendre la route. Voilà ce qu'on demande, un respect humain, et le respect au moins de ces salariés de la route.
Le ministère des Transports dit réfléchir à cette question en lien avec d'autres ministères. L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences encore sur le milieu culturel maintenant, le milieu du spectacle. En Grande-Bretagne, les restrictions sanitaires et le couvre-feu à 22h n'empêchent pas certains promoteurs de jouer quand même des comédies musicales, en tout cas jusqu'à jeudi, date d'un nouveau confinement outre-Manche. Richard Place a assisté à une représentation d'une adaptation de Gatsby le Magnifique dans le quartier du West End à Londres.
My name is Rosie Rosenthal.
L'un des acteurs est debout sur le bar qui borde une partie du décor principal. Il récite un texte, mais rien à voir avec l'œuvre de Fitzgerald.
Quand vous vous déplacez, vous devez maintenir une distance de sécurité entre vous et les autres. Nous vous demandons de garder vos masques tout le temps.
Keep your masks on at all times.
Pas de scène ici puisque la salle reconstitue un dancing américain des années 20. Le public joue le rôle des clients assis à des tables autour desquelles les comédiens interprètent, chantent et dansent. Une pièce de théâtre immersive en ces temps de restrictions sanitaires, pas simple. Pendant le show, les spectateurs portent donc des masques, pas les artistes, qui déambulent au milieu du public sans crainte. Il a fallu revoir toute l'organisation, certaines scènes, le positionnement de chacun. Un travail colossal, dit Louis Armstrong, l'un des producteurs.
Il y a vraiment eu des jours où l'on se posait la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Mais toute l'équipe a fait front, main dans la main, pas littéralement bien sûr, pour relever le défi. C'est exaltant.
Alexander Wright, le metteur en scène, a dû tout repenser, mais c'était indispensable selon lui, et pas seulement pour des raisons sanitaires.
L'art nous donne une raison de nous rassembler. Sans art, sans culture, nous devenons une société de gens très solitaires. Et c'est dangereux, c'est triste. L'art est primordial pour se retrouver et former une communauté.
Cette adaptation de Gatsby le Magnifique doit s'exporter à Paris l'année prochaine. Des discussions sont en cours pour trouver une salle, avec ou sans masque.
C'était Richard Place, notre correspondant à Londres. Le temps ce mardi sera encore marqué par de la pluie. En tout cas ce matin, du sud-ouest jusqu'au nord-est. Ailleurs, le ciel sera variable avec 9 degrés ce matin à Lille, 10 degrés à Paris et Rennes, 12 à Strasbourg et Bordeaux, 17 degrés à Marseille.